Bon, ben Philippe, on ne peut pas dire que l'Euro 2020, qui est disputé en 2021, est exempt de portions dramatiques, disons ça. Il y a le joueur danois qui s'est écroulé, qui a été ressuscité. Et là, ben juste avant le match France-Allemagne, je viens de voir ça là, sur le journal L'Équipe en France, il y a un militant de Greenpeace qui était dans un ultra-léger à Hélice, puis qui s'est écrasé sa pelouse. Il semble qu'il aurait pu se faire bien, bien mal. Donc, bref, c'est 1-0 pour les Français.
Oui, tout à fait. Un but que les Allemands ont marqué dans leur propre filet. En fait, c'est Hernandez qui fait une passe devant le filet allemand. Et là, les deux défenseurs allemands voient le ballon arriver, puis ils sentent surtout Mbappé dans leur dos. Alors, Mbappé, on le sait, c'est la grande vedette en attaque pour la France. Alors, ils veulent empêcher Mbappé de saisir le ballon. Alors, le défenseur, il veut le dégager, mais il le dégage dans son but. Complètement dans le haut du but. Le pauvre gardien, son camarade gardien, pouvait absolument rien y faire. Alors, c'est 1-0 pour la France. Ce match-là a débuté avec une... on a évité une controverse. Chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais depuis une journée, Patrick, c'était la rumeur. En fait, c'était plus qu'une rumeur. Même les joueurs français l'avaient dit qu'ils poseraient un genou à terre pendant l'hymne national. Parce que comment ça fonctionne à l'Euro, avant le début de la rencontre, on joue l'hymne national des deux pays participants. Et les Français ont dit, ça a été confirmé par leur capitaine, Hugo Lloris, que pendant l'hymne national de la France, pour exprimer leur colère face aux inégalités raciales, à la brutalité policière, ils mettraient le genou à terre. Alors là, on écoutait tout ça avant le début de l'émission, voir ce qu'ils vont le faire. Et en tout cas, ce qu'on a vu à la télévision, là, ils ne l'ont pas fait finalement. Okay. Ils sont restés debout pendant l'hymne national. Mais te dire comment les passions en France autour de cette histoire-là se sont élevées, Patrick, c'est renversant. Je regardais les messages sur Twitter. Évidemment, un débat extrêmement polarisant entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est vraiment là un débat qui est très, très chaud en France. Mais là, pour l'instant, les joueurs français ne l'ont pas fait pour ce premier match-là, en tout cas selon ce qu'on a vu et les images qui nous ont été diffusées.
As-tu vu Cristiano Ronaldo qui a tassé les bouteilles de Coke, un gros commanditaire de l'Euro, en disant « buvez de l'eau ».
Oui, c'est ça. Lui, il a dit « non, pas de Coke pour moi ». Il avait une conférence de presse, puis il a dit « je préfère de l'eau ». Alors, c'était quand même sympathique de le voir, de le voir faire ça. Ronaldo qui, plus tard, il a marqué deux buts pour conduire les siens. Le Portugal a une victoire de 3-0 contre la Hongrie. Il devient le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de l'Euro. Il était à égalité avec le Français Michel Platini. Ils en avaient chacun 9. Et là, Ronaldo en a 11. Alors, et je veux juste te dire une chose à propos de... C'est incroyable, cet Euro-là, en temps de pandémie, comment ça fonctionne. Alors, tu as deux matchs aujourd'hui. Celui en Hongrie, entre le Portugal et la Hongrie, 68 000 personnes dans le stade à Budapest. Pas de distanciation sociale, c'est comme avant. L'autre match qui commence à peine, on a joué maintenant quoi, 20, une trentaine de minutes peut-être, c'est à Munich en Allemagne, un stade qui contient aussi plus de 60 000 spectateurs. Il y a 14 000 personnes seulement qui sont admises aujourd'hui. Alors tu vois là, c'est vraiment des directions très très différentes qui sont prises dans chacune des villes, dans chacun des pays. J'ai hâte de voir quand on va faire le bilan de tout ça. Là, en Hongrie par exemple, qu'est-ce que ça va avoir donné?
Selon les juridictions, c'est très, très différent. Ouais. Et hier, Philippe, à Las Vegas, le stade, l'aréna était plein.
Ouais, ouais.
Et disons que je ne sais pas si ça a aidé les Golden Knights. Les Golden Knights ont montré de quel bois ils chauffent.
Ouais, je suis convaincu que ça les a aidés. Tu joues devant 19 000 personnes qui sont, tu sais, t'as entendu là, comment les gens crient puis comment il y a de l'action là-bas. Alors, c'est sûr que pour les joueurs du Canadien, là, ils voient ça puis ils disent, hey, nous autres, on va retourner au Centre Bell puis de la manière dont c'est parti, il va y avoir 2500 personnes. Ils y voient une iniquité. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Toute la direction de l'équipe pense comme ça. Alors, là, j'ai hâte de voir, t'en as parlé avec Philippe Bonneville en ouverture d'émission. Le docteur Arruda fait une déclaration aujourd'hui, comme tu disais, où on n'a absolument rien compris de ce qu'il voulait dire. Alors, on va rendre la décision avant, évidemment, le match de vendredi qui est au Centre Bell, le troisième match de la série. Moi, je suis convaincu qu'on va augmenter la capacité du Centre Bell, c'est-à-dire le nombre de personnes qui pourront assister au match. Maintenant, tout est dans le chiffre. Est-ce qu'on va passer de 2500 à 4000, à 5000? À 10 000, moi, je serais étonné qu'on aille à plus que 5 000.
Et en tout cas, on a entendu tantôt Dr Horacio Arruda répondre à une question là-dessus. Écoute, j'avais l'impression d'être... Il y a une vieille bande dessinée d'Astérix qui s'appelle Le Devin. Puis Le Devin, il lit dans les entrailles des poissons puis des poulets. Tu écoutes ce que dit Dr. Arruda là-dessus, puis je pense que tu es peut-être mieux d'aller avec l'astrologie pour comprendre.
Ouais, et moi, je sais pas toi, mais moi, je trouve ça décevant de voir que le directeur de la santé publique n'est pas capable à ce moment-ci d'émettre une opinion claire publiquement. Pourquoi il ne le fait pas? Là, dans le moment, là, on a à peu près deux opinions claires. On a celle du premier ministre Legault qui dit hey, j'ai parlé avec Philippe Dano, j'ai demandé à la santé publique de regarder le dossier. On sent que M. Legault, là, et tu parlais de l'article d'Yves Boisvert ce matin dans la presse, veut plus de monde au Centre Bell. Et là, tu as le ministre Dubé qui lui dit ben écoutez, soyons prudents, puis les États-Unis, c'est pas un étalon mesure et tout, et tout, et tout. Et tu as le directeur de la santé publique qui se sent coincé entre les deux, mais c'est lui qui, théoriquement, devrait donner son point de vue. Puis aujourd'hui, il est incapable de le faire. C'est un peu bizarre.
C'est quand même spécial de dire on va permettre 5000 personnes au Centre Bell, puis il va y avoir aucun spectateur pour le spectacle de la fête nationale.
Parce que
c'est le gouvernement qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas de spectateurs pour l'enregistrement de l'émission de télé qui, on s'entend, est assez contrôlé. C'est un petit peu
Et c'est à l'extérieur aussi.
Et aussi.
Mais c'est pas fait encore, là, les gens qui nous disent que c'est pas fait encore, le 5000 personnes au Centre Bell. Là. Moi, c'est une hypothèse.
Non, on est à 2500.
On est à 2500 pour l'instant.
Mais Philippe, ça pose toute la question de l'indépendance de la santé publique.
Ben, voilà.
On en a parlé ici. On en a parlé, moi j'en ai parlé dans la presse, je suis pas le seul. Tu sais, quand le politique s'appuie sur la santé publique, c'est une façon de dire que c'est pas une décision politique. Et ce qu'on voit, c'est que les décisions, elles sont politiques. Oui, des fois, on va écouter la santé publique, mais on l'a vu dans le cas du ministère de l'Éducation, du ministre de l'Éducation. On tord le bras de la santé publique pour faire dire des mots que la santé publique veut pas dire. Ça pose la question de l'indépendance. Maintenant, regarde, est-ce que c'est mal géré? Ça veut pas dire que c'est nécessairement mal géré. Mais quand le gars de santé publique me parle, j'ai pas envie de penser que c'est du politique qui me parle.
Voilà, exactement. Alors, on attend tous avec beaucoup de hâte cette décision-là et l'organisation du Canadien au tout premier rang. Tu parlais de Christian Andersen tantôt, le joueur danois, il va beaucoup mieux. Il a mis un message sur les réseaux sociaux. On sait, c'est lui qui a eu un arrêt cardiaque sur le terrain samedi dans un match entre le Danemark et la Finlande. On a vraiment craint pour sa vie. Il a été réanimé. Et puis là, ben ça semble aller mieux. Et puis, je termine en te disant une chose. Demain, au tournoi de tennis de Halle, en Allemagne, on aura le droit à un affrontement entre deux gars qui sont nés à la même date au mois d'août, mais à 19 ans d'intervalle, Roger Federer, le grand Roger Federer, qui va affronter Félix Auger-Aliassime, qui a gagné aujourd'hui. Auger-Aliassime a battu le Polonais Hubert Hurkacz et donc se qualifie pour le tour suivant où l'attend Roger Federer.
Et écoute, je connais pas grand-chose au tennis, mais je crois savoir, Philippe, pourquoi M. Auger-Aliassime a gagné. Veux-tu savoir pourquoi?
Oui, j'aimerais.
Parce qu'il n'était pas content de son jeu et là, il a fait ce qu'on fait, nous autres, les Québécois. Il a sorti quelques mots d'église au tournoi en Allemagne qui ont résonné un peu partout. Le premier mot d'église commençait par C et le deuxième commençait par T et finissait par AC.
Il y avait-tu un de entre les deux?
Oui. Fait que tu peux sortir le gars du Québec, mais tu ne sors pas le Québec du tennisman.